Donc, aujourd'hui, on va parler du Messie. Alors, je vous dis déjà, les halles suivantes, on parlera plutôt de Jésus comme serviteur. Ce sera la prochaine. Ça arrivera après la Semaine Sainte, mais pendant la Semaine Sainte, on a notamment les cantiques d'Isaïe hein, sur les chants du serviteur. Et puis, la suivante, au mois de mai, ça sera plutôt Jésus maître, Jésus pasteur. Alors, aujourd'hui, c'est Jésus le Messie. On a d'abord parlé du nom de Jésus, hein, Dieu sauve. Après, on a parlé plutôt de la nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et là, c'est le nom de Messie. Alors, Messie, c'est plus un nom de fonction, c'est pas la nature en quelque sorte, mais ça touche plutôt à la mission de Jésus. Vous savez que Messie ou Christ, c'est le même sens. Messie, ça vient de l'hébreu, Machiar, alors je ne sais pas si je prononce bien, mais et puis Christ, ça vient du grec, Christos. Donc, mais ça a le même sens, Christ ou Messie, c'est la même chose. Dans ce nom de Messie, alors là, c'est juste là, une rapide introduction, on a aussi tout le lien avec l'Ancien Testament, dans ce nom de Messie, venez divin Messie. Venez, divin Messie. Mais ça nous rattache à toutes les promesses, toutes les prophéties, etc. Donc, c'est vraiment un titre qui fait vraiment le lien avec l'Ancien Testament, le nom de Messie. Alors, Messie, alors j'en parlerai un tout petit peu à la fin. On parle de messianisme quelquefois aussi, mais il y a des messianistes qui ne sont pas du tout chrétiens. Voilà, parce qu'on désire des jours meilleurs, etc. Ou, je me rappelle d'un discours d'un président, le soir de son élection, on pensait que tout allait être bien. Il était sans doute sincère, mais peut-être pas tout à fait réaliste, je ne sais pas, ou présomptueux, je ne sais pas. Mais en tout cas, après, ben, il ne nous a pas sauvés, il faut bien reconnaître. Et il était certainement sincère, hein, je doute pas, mais... Voilà. Et puis, alors, ce titre aussi de Messie, toujours dans l'introduction, alors j'y viendrai, ça sera la troisième partie, dans la troisième partie, c'est nous sommes chrétiens, donc chrétien Christ. Donc, c'est un titre qui nous concerne d'une manière particulière. Hein, c'est à Antioche que pour la première fois, nous disent les Actes des Apôtres, que les disciples reçurent le nom de chrétien. Alors, c'est pas un hasard. Si. D'ailleurs, au début, ils ne s'appelaient pas chrétiens. Ils s'appelaient les saints, non pas qu'ils se prenaient pour quelqu'un de très, très bon, et etc. Mais le sens pour eux, c'était être consacrés à Dieu. Les saints, les bien-aimés de Dieu, etc. Ça ne veut pas dire que tous étaient canonisables, ipso facto. Ça veut dire simplement qu'ils étaient consacrés à Dieu. Donc, la consécration ou l'onction... c'est quelque chose qui va ensemble, hein, d'être consacré à Dieu. Voilà. Alors, trois parties, pour que vous ne soyez pas perdus. La première, ça sera le Messie dans l'Ancien Testament. La deuxième partie, ça sera Jésus, le Messie. Et la troisième partie, c'est le royaume de Dieu, le royaume du Messie. Donc, c'est avant Noël... pendant la vie terrestre de Jésus et puis après la Pentecôte. Pour faire simple, voilà les trois parties. Voilà, alors Messie, donc ce Christ, Messie, ça vient du nom de oint, de oindre. Hein, c'est celui qui est... alors du coup, l'onction, ça marque un choix particulier de la part de Dieu, j'y reviendrai, et puis ça marque aussi une relation particulière avec Dieu. Hein, donc... aussi consacré, vous voyez qu'on est assez proche. Dans l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu qui est consacré à Dieu. Dans l'Exode, par exemple, tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Ça pourrait traduire ça pour qui est oint, même s'il n'y avait pas, tout le monde n'est pas passé, il n'y avait pas une onction d'huile pour chacun, mais voilà. Alors c'est le Deutéronome et dans l'Exode aussi on le retrouve, mais je ne vais pas. Prolonger là-dessus. Et puis après, il y a des personnes qui sont consacrées. Et à ce moment-là, c'est le rite de la consécration, c'est par cette onction d'huile parfumée. Donc, ça manifeste un choix aussi. Cette onction, ça manifeste un choix. Tout à l'heure, je vous reparlerai un peu plus tard du choix de David. Vous vous rappelez du choix de David, mais je le rappellerai tout à l'heure. Et du coup, il y a quand même une proximité particulière avec Dieu qui est indiquée par cette onction. Et pas seulement une proximité, c'est pas seulement une investiture officielle et juridique, on pourrait dire, c'est qu'il y a un certain pouvoir qui est donné. Et petit à petit, on associe l'onction du Christ avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu au moins, même si on ne parle pas vraiment de l'Esprit Saint. Et du coup, l'onction, elle signifie justement que l'Esprit Saint pénètre dans la personne et le consacre pour une mission et lui donne les charismes nécessaires pour une mission. Alors, je vous dis par exemple, voilà ce que Samuel dit à Saül quand tu lui donnes l'onction. N'est-ce pas le Seigneur qui t'a oint comme chef de son peuple Israël? C'est toi qui jugeras le peuple du Seigneur. L'Esprit du Seigneur fondra sur toi. Et tu commenceras à prophétiser et tu seras transformé en un autre homme. Voilà. Donc ça, c'est l'onction. Hein. Le Messie, c'est celui qui est oint. Alors Jésus, c'est par excellence, on verra, celui qui est oint, l'Esprit Saint. Mais voilà. Dans l'Ancien Testament, il y a trois catégories de personnes qui sont ointes, qui reçoivent l'onction. Il y a les rois, les prêtres et les prophètes, ça vous dit quelque chose, prêtres, prophètes et rois. Alors bon, vous voyez des rois comme Saül, David, et qui sont loin. Alors, on voit des prêtres comme Aaron, même si le récit est plus tardif, mais Aaron qui est loin. Après, il y a les prophètes, souvent, ce n'est pas une onction d'huile, ça peut arriver comme Élie qui a loin Élisée comme prophète à sa place, mais Isaïe parle par exemple de l'esprit qu'il a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, ou Jérémie qui dit qu'il est consacré comme prophète. Oui, c'est ça, donc cette onction qui touche les rois, les prêtres et les prophètes. Alors ce qui vient en premier, c'est d'abord les rois, ça fait partie du rite du couronnement royal. Et du coup, le roi est un personnage sacré, pour ainsi dire, auquel on ne doit pas toucher. J'y reviendrai après aussi quand on voit comment David respecte Saül, même si Saül le poursuit pour le mettre à mort. Mais toujours David a ce respect parce que c'est loin du Seigneur, celui qui est loin par le Seigneur. Et du coup, aussi en lien avec la royauté, il y a toute cette promesse qui est faite dans le livre de Samuel à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. » Alors c'est pour ça que vous avez l'expression « fils de David » qui revient souvent dans l'Évangile, mais c'est plutôt dans l'onction royale. Et c'est pour ça aussi que ça a été un drame aussi pour les Juifs quand, au moment de l'exil à Babylone et tout ça, plus de royauté, plus de roi, qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup, ils ont orienté plus, il y aura un roi futur puisqu'il n'y avait plus de roi en exercice. Et donc il y a un messianisme royal qui s'est développé et qui a été repris notamment par les pharisiens. Les pharisiens étaient attachés à ce messianisme royal, à avoir quelqu'un... un chef politique aussi. Donc, roi, après prêtre. Alors justement, comme il n'y a plus de roi après l'exil, du coup, c'est les prêtres qui ont pris en quelque sorte un peu le relais auprès de la communauté des Juifs. Et alors, ils font remonter donc cette onction jusqu'à Aaron. Et après, tous les prêtres recevront l'onction. Donc, roi, prêtre et prophète. Là aussi, bon, je vous en ai déjà dit deux mots, mais du coup, avec cette idée d'être loin par l'Esprit Saint, alors souvent pour les prophètes, ce n'était pas de l'huile, mais un titre, symbolique, mais loin par l'Esprit pour proclamer la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est roi, prêtre et prophète. Alors, où en étaient les Juifs au temps de Jésus? Alors, même avant le temps de Jésus, il y a un certain nombre de prophéties qui concernent le Messie. Hein, il y a pas mal de prophéties qui annoncent la venue du Messie. Alors, bon, les prophètes divers et variés, Isaïe, il y a Jérémie, Michée, Ézéchiel, Zacharie, enfin, il y a beaucoup de prophètes qui annoncent le Messie. Mais après, quand on vient plus précisément au temps de Jésus, alors on voit que l'attente du Messie, elle est assez multiforme. Alors, comme j'ai déjà évoqué, chez les pharisiens, c'est plutôt le messianisme royal. Ils attendent plutôt un Messie qui est politique, en quelque sorte, à la fois religieux et politique, mais qui mette les Romains dehors, etc. Donc, et c'est cette composante plus du Messie royal qui est très à l'honneur avec les pharisiens en particulier. D'autres, les Esséniens entre autres, alors il y avait aussi le messianisme royal, mais aussi ils attendaient plutôt un Messie prêtre. Alors les Esséniens étaient plus proches d'un milieu sacerdotal. Alors ils attendaient deux Messies, eux, un prêtre et puis un roi. Donc le prêtre ayant la prééminence sur le Messie roi, on pourrait dire. Le Messie roi, il est chargé des besoins temporels et le Messie prêtre, et voilà. Alors ça, c'était plutôt les Esséniens. Et puis, il y a aussi cette composante du Messie comme prophète. Vous vous rappelez ce qui est dit dans le Deutéronome, c'est Moïse qui parle. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. » Et là, on retrouve ça aussi dans l'Évangile. Alors, pour vous, qui suis-je? Alors, un prophète, voilà. Donc, on voit que l'attente du Messie était assez variée hein, dans les gens qui écoutaient Jésus à l'époque de Jésus. Il y avait une vraie attente, mais une attente un peu variée. Alors, il y avait le serviteur du Seigneur, justement, qui pouvait être attendu un peu comme le Messie, ou le Fils de l'homme, dont on a déjà parlé. Mais ça, c'est au dernier temps, etc. Et du coup, c'était moins présent que les trois dont je vous ai parlé. Alors, Jésus, le Messie, donc c'est la deuxième partie. Alors, Jésus, un moment particulier de la consécration de Jésus comme Messie, alors, il est Fils de Dieu, et puis... Mais pour que ça nous soit révélé, c'est au moment de son baptême. Comme le dit c'est Saint-Pierre dans les Actes des Apôtres, il dit au moment du baptême, Dieu l'a oint de l'Esprit-Saint et de puissance pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, si on reprenait le récit du baptême, alors après les exégètes essaient de comprendre un petit peu ce qu'il y a. En tout cas, il y a vraiment une intronisation royale, hein. Fils bien-aimé, ça peut se référer aux paroles du psaume 2, hein, au verset 7, où c'est vraiment un psaume pour l'intronisation royale. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, ben, c'est le père qui intronise son fils. Mais cette expression, elle peut évoquer aussi, par exemple, Isaac. Vous vous rappelez ce que... quand ils montent sur le mont Moria, Isaac avec Abraham. Alors, Dieu, comme pour... prends avec toi ton fils bien-aimé, ton unique. Alors, pour certains aussi, cette parole du Père au moment du baptême, ça peut se référer aussi à Isaac. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on voit que on a une attente du Messie, alors plus l'intronisation royale, mais en même temps, peut-être qu'il y a d'autres composantes aussi, mais qui ne sont pas trop présentes à notre esprit, qu'on a tendance à pas enregistrer parce que ça ne va pas trop dans notre cadre. Mais il y avait quand même, sans doute, semble-t-il, dans les paroles que le Père prononce, une idée de sacrifice. Et du coup, ça peut indiquer déjà quelque chose de sa mission de Messie, pas uniquement une intronisation d'ordre politique, on pourrait dire, mais d'abord quelqu'un qui est là effectivement pour guider le peuple, mais pour offrir sa vie pour sauver ce peuple. Et de fait, le baptême, c'est déjà aussi une annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Un Jésus qui descend dans l'eau et qui remonte, c'est les eaux de la mort. Pour les Juifs, l'eau, c'est le domaine de la mort. Je pense à la mer ou tout ça, quand on est, c'est le domaine des puissances mauvaises. Donc il descend pour remonter. Alors c'est déjà une préfiguration, on pourrait dire, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc ça peut nous indiquer justement que Jésus sera Messie, donc en donnant sa vie, mais pour nous racheter. Alors Jésus est donc prêtre, prophète et roi. On voit ça. Son onction royale, on pourrait dire, c'est, on voit qu'il expulse les démons. Il a cette autorité pour expulser les démons. Par l'onction prophétique, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Et par l'onction sacerdotale, il va se donner lui-même sur la croix pour nous sauver. Alors ça, c'est la scène, on pourrait dire, inaugurale du baptême, où Jésus est présenté comme Messie. On voit aussi dans les évangiles, beaucoup disent, par exemple, André, ça c'est au début de l'évangile, « Nous avons trouvé le Messie », ou la Samaritaine aussi, qui est « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient », et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Voilà. Ou alors, bien sûr, ce passage très connu avec Saint-Pierre, « Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Alors, vous pouvez trouver des passages de ce que je dis dans le catéchisme de l'Église catholique, là, au numéro 549, par exemple. « En libérant certains hommes des maux terrestres, de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, Jésus a posé des signes messianiques. Il n'est cependant pas venu pour abolir tous les maux d'ici-bas, mais pour libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, celui du péché, qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause tous leurs asservissements humains. » D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être de ce passage où Jean-Baptiste, il est emprisonné, et aussi entre la manière dont Jésus se présente et puis l'idée qui se faisait du Messie, au début on voit dans la hache au pied des arbres et tout ça, et du coup il est un peu déconcerté, et donc certains de ses disciples font le lien parce que lui il est en prison, mais es-tu vraiment celui qui doit venir ? Et alors Jésus leur dit, les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. Donc c'est des signes messianiques aussi ça, pour que conforter un petit peu Jean-Baptiste qui est un peu désorienté à ce moment-là, et puis il donne sa vie quand même. Et du coup, voilà, c'est des signes messianiques qui viennent le conforter. Oui, tu ne te trompes pas, même si peut-être, tu es un peu dérouté parce que le Messie ne se présente pas exactement comme tu l'attendais. Hein, mais rassure-toi, c'est bien moi, en quelque sorte. Et alors, on voit dans l'Évangile, vous pouvez reprendre beaucoup d'autres passages. Par exemple, dans Saint Jean, les auditeurs s'interrogent, n'est-ce pas le Messie ? Hein, ça, on le trouve au chapitre 4, au chapitre 7. Ou n'est-ce pas le fils de David ? Hein, c'est une expression quasiment synonyme, Messie ou fils de David, même si ça insiste plus sur le côté royal, le messianisme royal, mais... Et à un moment, on voit que les Juifs qui décident d'excommunier tous ceux qui reconnaîtront Jésus comme le Messie. Donc, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Évangile. Beaucoup l'invoquent aussi pour être guéri, fils de David. Mais c'est pour qu'il fasse des signes messianiques. Alors, donc, on voit que Jésus est reconnu comme le Messie. Et en même temps, vous savez bien que dans l'Évangile, à certains moments, Jésus dit, mais surtout ne dites rien. Hein, c'est ce qu'on appelle le secret messianique. Ce qu'on appelle le secret messianique, c'est que les gens se faisaient une idée du Messie, mais qui ne correspondait pas exactement à ce que, au Messie tel que Jésus voulait se présenter. Alors c'est pour ça que le secret messianique, comme on l'appelle, est assez présent dans l'Évangile. Donc, souvent quand les « oui, tu es le Messie », Jésus leur dit « tais-toi, ne dis rien à personne » ou après après la transfiguration, il leur dit de garder le secret ou de ne pas dire qu'il est le Messie. Et justement parce qu'il y a besoin de purifier cette conception du Messie que les uns et les autres se faisaient. Jésus n'était pas là pour la libération nationale et terrestre. Il était pour... D'ailleurs, vous vous rappelez aussi un autre épisode dans l'évangile de Saint Jean, ce chapitre 6. Jésus a multiplié les pains. Alors, les gens sont ravis. Donc, ils sont sur le point de le prendre pour faire de lui leur roi. Et Jésus s'éclipse parce que non. C'est... Là, il y a un malentendu. Et dans l'Évangile, on peut voir vraiment deux parties dans l'Évangile, et le sommet, c'est la transfiguration, on pourrait dire. La première partie où il y a des signes messianiques, etc. Voilà. Et puis la deuxième partie, donc c'est sympa d'accompagner Jésus à ce moment-là, il fait des miracles, il est célèbre, et tout le monde se met à sa suite, donc c'est plutôt la partie, plutôt les mystères joyeux, on pourrait dire. Et puis après, à partir de la première annonce de la passion, de la transfiguration, il commence à annoncer qu'il va souffrir, mourir. Alors, la résurrection, ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire encore. Donc ça, ils n'enregistrent pas trop cette parole quelque part à ce moment-là. Et Pierre, à ce moment-là, sa réaction, vous savez bien. Mais non, Dieu t'en préserve. Alors, du coup, ça, c'est l'Évangile. Ils arrivent à proclamer le Messie. Pierre vient de proclamer le Messie. Et puis après, la deuxième partie, c'est la purification, on pourrait dire, de cette idée du Messie. Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils imaginent du Messie et le Messie tel qu'il se présente devant eux. Donc ça, c'est toute la deuxième partie de l'Évangile. Et c'est là, comme je disais un tout petit peu, j'évoquais rapidement tout à l'heure, je crois que c'est Benoît XVI qui dit ça. Le destin du Messie rejoint celui du serviteur souffrant d'Isaïe. Le Fils de l'homme n'entre dans sa gloire que par le sacrifice de sa vie. Ces deux figures importantes qu'on a déjà évoquées, mais le serviteur, et pour le serviteur, ça sera la prochaine fois beaucoup, et puis le Fils de l'homme. Ça, c'est deux figures, mais que les Juifs ne reliaient pas aussi clairement leur idée du Messie jusque-là. Le serviteur souffrant, ça ne collait pas trop avec leur idée du Messie jusque-là. Et alors, arrive un moment où, à ce moment-là, les gens peuvent proclamer ouvertement que Jésus est le Messie, fils de David, c'est l'entrée à Jérusalem. Donc, à la fois, c'est le dénouement, en quelque sorte. Donc, on appelle ça aussi, vous pourrez voir dans vos Bibles, c'est l'entrée messianique de Jésus. Donc, il entre sur un âne, un petit âne. Ce n'est pas le Messie triomphant qui entrerait sur un cheval flamboyant, je ne sais pas. Voilà, donc c'est le Messie qui arrive et donc Jésus se laisse acclamer parce que maintenant les dés sont jetés, si je puis dire. Et puis voilà, les choses sont... Mais il se présente comme Messie, mais avec humilité. Et après, vous avez tout ce dialogue avec Pilate, par exemple. Ma royauté n'est pas de ce monde. Hein, pour bien comprendre, oui, c'est le Messie. Oui, je suis le roi des Juifs, et c'est ce qui sera marqué sur sa croix, mais pas à la manière humaine. Je suis roi, mais pas à la manière humaine. Et justement, ils prennent un malin plaisir, on pourrait dire, dans la passion de Jésus, à se moquer de sa royauté, quand ils lui mettent un manteau, une couronne d'épines et tout ça. Ils se moquent de cette royauté du Messie. Mais quelque part, justement, parce qu'ils ont une idée de la royauté de Dieu qui n'est pas la véritable royauté de Dieu, qui n'est pas une royauté qui écrase, et ce n'est pas une royauté temporelle. Alors, à travers ça aussi, on voit, et j'y viendrai un peu plus après, dans la troisième partie, déjà sur la croix, on parle du royaume, hein, le royaume des cieux. Alors, il y a toutes les paraboles du royaume, etc. Mais ce royaume, ça correspond au royaume du Messie. Hein, mais on voit le décalage. Et le bon larron reconnaît justement la royauté de Jésus, mais la royauté de Jésus, le royaume de Jésus, c'est « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ». Mais on voit que pour les soldats qui écoutent là, ils se demandent un peu ce que ça peut vouloir dire. C'est pas du tout, c'est pas un royaume de ce monde. Une petite citation de Benoît XVI. Jésus, par son annonce et avec tout ce qu'il a accompli, avait inauguré un règne non politique du Messie. Mais cette séparation entre politique et foi, entre peuple de Dieu et politique, appartenant à l'essence de son message, n'était possible en définitive qu'à travers la croix. C'est seulement à travers la perte vraiment absolue de tout pouvoir extérieur, à travers le dépouillement radical de la croix, qu'apparaît la nouvelle manière par laquelle Dieu domine dans le monde. Tout au long de l'histoire, les hommes regardent le visage déformé de Jésus et reconnaissent précisément en lui la gloire de Dieu. C'est toujours quand le Fils de l'homme sera élevé. Alors il est élevé sur la croix, mais c'est aussi la gloire, mais qui n'est pas une gloire humaine, justement, à ce moment-là. Alors ça, c'était la deuxième partie. Maintenant, j'en arrive à la troisième partie, le royaume de Dieu, le royaume du Messie. Justement, dans l'ascension, Jésus s'assied à la droite du Père. Hein, voilà, alors il prend place dans son royaume. Vous pouvez aller voir dans le catéchisme aussi, ils en parlent de cette intronisation messianique là, au moment de l'ascension, hein, numéro 664. Il est exalté à la droite de Dieu. Et maintenant, il exerce sa royauté. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, comme dit l'Apocalypse. Et du coup, jusqu'à ce moment-là, les apôtres n'ont pas beaucoup parlé de Jésus comme Christ. Mais c'est après la résurrection que, à ce moment-là, il n'y a plus d'équivoque possible sur l'appellation. Et c'est là que justement l'appellation de Jésus-Christ, hein, son nom plutôt comme on l'a connu sur la terre, et Christ, sa mission messianique, ça sera, on le connaît, Jésus-Christ, ça sera le nom par excellence par lequel on appellera Jésus. Hein. Mais donc ça, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, du coup, il n'y a plus d'équivoque à ce moment-là. On sait bien que ce n'est pas une royauté temporelle, etc. Mais jusqu'au bout, hein, vous vous rappelez, avant la Pentecôte, juste avant l'ascension, est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël, hein? Donc, c'était vraiment inscrit profondément. C'est les apôtres qui lui demandent ça. Donc, après la Pentecôte, ils vont commencer à parler du Christ, et là, il n'y a plus du tout de... Et même, ce qu'on peut dire, c'est que le Christ, c'est vraiment le mot le plus utilisé, et tous les titres convergent en quelque sorte ou se concentrent autour de celui de Christ. Alors Saint Paul, oui, il annonce le Christ crucifié, etc. Oui, c'est comme son nom propre, le Christ, mais après la résurrection. Alors ça, c'est pour Jésus, et pour nous, nous aussi, nous sommes oints. Alors, il y en a qui peuvent recevoir même trois onctions. Alors, il y a différentes onctions. Trois onctions du Saint-Crème. Il y a aussi l'onction des malades ou des catéchumènes. Mais le Saint-Crème, on peut le recevoir trois fois. Alors vous pouvez le recevoir que deux fois. Ah ben, vous pouvez être jalouse, ouais, voilà. Baptême, confirmation et sacerdoce. C'est l'onction des malades, c'est pas le Saint-Crème. Hein, vous voyez, vous irez à la messe chrismale, la messe chrismale. Donc, lors de cette messe, justement, on bénit les huiles. Et donc, il y a trois. Alors, on bénit l'huile des catéchumènes, on bénit l'huile des malades et on consacre le Saint-Crème. Alors, nous sommes marqués, alors, au moment de notre baptême et puis au moment de la confirmation, on reçoit cette onction, mais déjà au moment du baptême, cette onction du Saint-Crème dit notre appartenance. Notre appartenance à Jésus. C'est Cyril de Jérusalem qui explique ça à ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques. Il y a quelqu'un qui est catéchumène ici? Très bien. Alors, donc, vous allez recevoir cette onction. Vous allez être des messies, des Christ. cette onction de l'Esprit-Saint qui symbolise aussi l'Esprit-Saint qui vous consacre à Dieu. Qu'est-ce que dit Saint Cyril de Jérusalem ? Baptisé en Christ et revêtu du Christ, vous êtes devenu conforme au Fils de Dieu. Désormais, donc participant du Christ, vous êtes à juste titre appelé Christ. Et c'est de vous que Dieu disait « Ne touchez pas à mes Christ ». Or, vous êtes devenus des Christ en recevant l'empreinte de l'Esprit-Saint. Pour le Christ, quand il fut baigné dans le fleuve du Jourdain et qu'il eut communiqué aux eaux le contact de sa divinité, il remonta de celle-ci et la venue substantielle de l'Esprit-Saint sur lui se produisit. Et pour nous, semblablement, une fois remonté de la piscine des saintes eaux, ce fut la chrismation, image exacte de celle dont fut chrismé le Christ, je veux dire l'Esprit-Saint. De ce parfum visible, le corps est chrismé, mais du Saint-Esprit vivifiant, l'âme est sanctifiée. Donc c'est juste après le baptême, quand on remonte des eaux, enfin vous ne serez peut-être pas baptisé par immersion, mais donc c'est là qu'on reçoit l'onction du Saint-Crème. Alors ça apparaît quand même dans un certain nombre de lettres de Saint-Paul ou de Saint-Pierre, de Saint-Jean même. Alors je vous cite quelques versets. Celui qui nous a affermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. De Saint Jean, quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint. Donc, chrétien, ça veut dire qu'on est oint, qu'on est consacré à la suite de Jésus. L'onction, elle veut dire deux choses. Déjà, une appartenance particulière, une consécration, mais la consacration est toujours aussi pour une mission. Hein? Donc là, alors justement, je reprends tout à l'heure, je vous ai évoqué David, vous vous rappelez le prophète Samuel, Saül n'a pas obéi à Dieu, donc Dieu dit non, je le rejette, il n'avait qu'à obéir, voilà. Et il dit à Samuel, tu choisiras un autre que tu oindras. Alors donc, Samuel se met en route et il sait qu'il doit aller chez Jessé, hein, le père de David. C'est un passage que vous connaissez bien, hein, mais c'est à Bethléem. Hein. Et alors Samuel arrive, il aperçoit Eliab, il se dit, ah sûrement c'est lui, le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Alors Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-ci. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Mais vous pensez à David, mais c'est vous aussi au moment du baptême. Alors avec... On ne vous versera pas une bouteille d'huile sur la tête, mais je pense que c'est bien de se mettre un peu à la place. On voit bien qu'il a été choisi, David. Hein, il y a vraiment un choix de la part de Dieu, de David. Mais nous aussi, nous sommes choisis par Dieu quand nous sommes choisis pour ses enfants. Et du coup, cette onction, ça indique aussi une relation particulière avec Dieu. Vous vous rappelez, Saül est jaloux de David. La jalousie, c'est un péché capital qui peut nous conduire à faire des choses mauvaises, graves. Et il veut tuer David. Il veut le tuer. Donc il le poursuit, tout ça, mais David se sauve. Et à un moment, Saul a des besoins pressants. Il va dans une grotte. Et ce qui se passe, c'est que David est au fond de la grotte. Alors, les copains de David lui disent « c'est le moment ou jamais ». On lui tombe dessus et voilà, tu seras tranquille. Et David, sa réaction, David dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. » Donc, David se refuse parce qu'il est porteur de cette onction de Dieu. Et deux chapitres plus loin, autant que je me souvienne, Saül est toujours à la recherche de David, et il y a un sommeil qui tombe sur le camp de Saül, et du coup David va chercher la lance plantée à côté de Saül, il revient et après il lui crie tiens. Mais là aussi celui qui accompagne David dit t'inquiète pas, je le transperce, je n'aurai pas à m'y reprendre deux fois. Et David qui lui dit, ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Je trouve que c'est assez beau de voir que nous, on n'en a pas forcément conscience d'être porteur de cette onction du Seigneur depuis l'instant de notre baptême, alors qu'il comporte aussi une responsabilité, hein, bien sûr. Voilà. Alors, comme vous le disiez très bien, nous recevons cette onction pour une mission. On peut être mis à part, mais mis à part pour les autres. Hein. Toute consécration, ce n'est pas quelque chose d'intimiste, simplement avec le bon Dieu et tout ça, mais quand on est consacré, c'est toujours pour une mission. Et alors, justement, notre mission de prêtre, prophète et roi. On n'est pas obligé, mais souvent on le dit dans la formule qui est pour mettre le « tu seras prêtre, prophète et roi ». Donc, roi pour lutter. Alors nous, ce n'est pas des ennemis visibles, mais plutôt des ennemis invisibles, contre le péché, etc. Prophète aussi pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour évangéliser, pour prêtre, aussi pour offrir notre vie en sacrifice. Hein, c'est au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, hein, offrez vos corps en sacrifice saint à Dieu. Vous savez, hein, les lettres de saint Paul, un certain nombre de ces lettres, tout du moins, il y a deux parties, une partie où on contemple Dieu, et la deuxième partie, plus d'ordre moral, parénétique, comme on dit, ou alors, justement, la contemplation de Dieu, après, nous, on est appelé aussi à un comportement qui correspond. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça commande, offrir vos vies à Dieu. C'est toujours Dieu qui a l'initiative, c'est pour ça qu'on... Et puis après, nous qui essayons de répondre comme on peut, nous, on fait comme on peut. Hein. Donc, nous sommes des Christ à la suite de Jésus, mais... Nous, on peut se tromper de messianisme, on peut se tromper de Messie. Et c'est un combat toute notre vie, en fait. Hein. C'est comme il y a la loi de la gravité, on laisse tomber quelque chose, ça va vers la terre. Et nous, on est quand même très... Spontanément, on va vers les choses de la terre, hein. Il faut bien avouer. Et quand on prie le bon Dieu, quelquefois, on désire plus le bonheur terrestre que le bonheur du ciel. Mais justement, si Jésus a donné sa vie, ce n'est pas pour nous installer sur la terre, c'est pour nous préparer une place au ciel. Et alors, quelquefois, donc, nous, on rêve plus, hélas, d'un messianisme terrestre à cette vraie vision du Messie qui est pour Dieu. C'est un peu la différence entre l'espoir et l'espérance. Vous voyez, il y a plusieurs différences entre l'espoir et l'espérance. Je ne sais pas si vous voyez. L'espérance comme vertu théologale. L'espoir, c'est j'espère être guéri, et c'est tout à fait légitime. J'espère avoir mangé à ma faim, j'espère avoir une vie facile, qui est la paix, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'espoir, bien sûr. Mais quelquefois, du coup, l'espoir se limite beaucoup à l'horizon de la terre. Et l'espoir, c'est plutôt on projette notre désir et on attend que Dieu le réalise. Tandis que l'espérance, c'est un peu différent. Déjà, l'horizon de l'espérance, ce n'est pas d'avoir la terre. Alors, c'est la grâce en ce monde, dans l'acte d'espérance, mais c'est le bonheur éternel dans l'autre. Donc, l'horizon de l'espérance, ça ne se limite pas à la terre. C'est va au-delà, c'est surtout l'horizon, c'est le bonheur du ciel. Et nous, on essaie de... Dans l'acte d'espérance, il y a la question de la promesse. Parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses, on essaie de s'ajuster à ce que Dieu nous a promis. Ce n'est pas nos désirs qu'on projette et on demande à Dieu de réaliser nos désirs. La démarche est différente. On essaie de scruter quelle est la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me donner ? Ce n'est pas toujours simple à savoir. Mais vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des Juifs et des apôtres eux-mêmes. Il y a toujours un décalage entre ce qu'on désire et puis ce que Dieu veut nous donner. Il y a toujours un décalage. Et c'est compliqué pour nous de nous élargir pour nous ouvrir à ce que Dieu veut nous donner. Et pas obliger, entre guillemets, de toute façon on ne l'oblige jamais, mais obliger Dieu à subvenir à nos besoins. Même si, encore une fois, c'est légitime de vouloir être en bonne santé, d'avoir un certain bonheur terrestre, c'est légitime, mais comme chrétien, on est appelé à plus. Justement, Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, avait réfléchi sur l'échec de Marx qui voulait instaurer le paradis sur terre. Mais du coup, dans ses paramètres, il n'avait pas intégré le fait qu'il y avait le péché de l'homme et que c'était compliqué le paradis sur terre avec le péché de l'homme. On le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec... sans aller chercher très loin dans les familles, hélas. On voit que c'est... Voilà. Mais l'objet de l'espérance, c'est pas le paradis sur terre. Alors, c'est Saint Paul aussi qui dit, alors c'est dans les Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc, on voit bien la distinction entre un royaume terrestre et le royaume de Dieu. Paix et joie dans l'Esprit Saint. Où on voit aussi, c'est au chapitre 6 de Saint Matthieu, Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller ? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Vous pouvez aussi lire un passage de Gaudium et Spes, c'est un document du Concile Vatican II sur les... Et dans Gaudium et joie et espoir, le titre, espérance, du coup, le document distingue bien le progrès terrestre et la croissance du règne du Christ. Alors nous, on a quelquefois un peu de mal à distinguer les deux, mais voilà. Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre, Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de ce qu'on fait sur terre, bien sûr. Il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra. Et justement, le royaume de Dieu sera instauré définitivement au retour de Jésus, à la venue dans la gloire de Jésus. D'ici là, on sait bien qu'il n'est pas encore là. Enfin, que partiellement, de manière incoative, voilà. Mais que, voilà, et la parousie de Jésus, ça sera justement l'instauration, du royaume de Dieu. Mais pour l'instant, il est déjà là et pas encore dans sa plénitude. Alors, je vous fais une petite conclusion. Ça rejoint ce que je viens de dire à propos de l'espoir et de l'espérance, mais Jésus comme Messie vient combler, même dépasser l'attente des Juifs. Alors, Dieu répond vraiment à cette attente, mais il la dépasse. Mais alors, nous, de notre côté, pour les Juifs, et nous, c'est pareil, ça nous oblige à quitter nos idées qui sont un peu trop étroites. On pense que le Messie doit venir comme ça. Et alors, c'est en partie vrai, mais pas complètement vrai non plus. Donc, on est toujours un peu... on est appelé à ouvrir notre intelligence à la volonté de Dieu qui nous dépasse. Comme Marie à l'Annonciation, elle était un peu bousculée, ça ne correspondait sans doute pas à son schéma, au schéma qu'elle désirait la venue du Messie, etc. Mais la manière dont ça se présente, alors là, c'est un peu déroutant, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi quand on médite sur le Messie. Voilà, c'est oui, il y a une vraie attente, et en même temps, entre l'attente qu'on a et ce que Dieu va nous donner, nous, on se fait des. Bien sûr, on s'imagine les choses, mais il y a toujours un décalage. Alors, j'aime bien, vous connaissez ce passage de la petite Thérèse. Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté que lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Nous sommes dans un siècle d'invention maintenant. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Alors, je trouve que ça illustre un petit peu Dieu qui dépasse nos attentes, ou ce verset aussi de saint Paul aux Éphésiens. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Voilà, je pense que le Messie, c'est qui... Dieu est fidèle à ses promesses, mais nous, on interprète ses promesses et on est quelquefois un peu dérouté. Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse poser des questions faciles, comme d'habitude.
Pour la confirmation.
Alors, au départ, la confirmation était dans la foulée du baptême, parce qu'au départ aussi, au premier temps de l'Église, c'était les adultes qui étaient baptisés, et du coup, l'onction qu'ils recevaient, c'était la confirmation. Et puis après, à partir du moment où on a baptisé les petits-enfants, donc à ce moment-là, on a plutôt eu tendance à distinguer et à considérer qu'il y avait deux sacrements en tant que tels. Celui qui fait de nous un fils de Dieu, le sacrement qui nous constitue fils de Dieu, et celui qui nous donne la mission. C'est Jean-Paul II qui disait, il disait quelque chose du style « La confirmation, c'est la Pentecôte de votre vie ». Mais du coup, c'est le départ en mission davantage. Et alors, il y a des manières de concevoir les choses différentes dans l'Église, mais dans l'Église occidentale, on est plus habitué à être confirmé à partir de l'adolescence, justement, où on fait, en notre nom propre, on renouvelle. Alors, après, la profession de foi, c'est très français, mais dans la confirmation, il y a une profession de foi avant de recevoir et d'être envoyé comme pour évangéliser. Bon, il y a des enfants, ils ne sont pas grands, ils vont évangéliser. Puis il y en a qui sont vieux, mais qui ne vont pas évangéliser. Donc, c'est pas. Mais au départ, oui, c'était deux choses différentes. Après, le Saint-Crème, il peut servir aussi à autre chose. Par exemple, pour la consécration d'un autel, pour la. Donc, on utilise le Saint-Crème pour. Voilà.
Et par exemple, les catéchumènes, donc, ils sont adultes.
Alors, ça c'est plus une question pastorale. C'est plus une question pastorale. Alors, il y en a qui militent pour que un catéchumène reçoive le baptême, la confirmation et communie tout. Donc, bon, ça c'est une. Ça se fait beaucoup. D'autres préfèrent, mais c'est une question pastorale, disent, ben. On reçoit tout d'un coup, alors c'est pour mieux goûter ce qu'on reçoit, ben, on peut l'étager, on reçoit le baptême à Pâques, et puis à la Pentecôte, on reçoit la confirmation. Donc. Mais ça, c'est plus au niveau pastoral de dire, ben, voilà, pour que la personne, voilà, pour ne pas tout faire en même temps. Il y en a qui font le baptême. La confirmation, la communion et le mariage. Mais ça fait beaucoup la même journée. Après, il n'y a pas de choses dogmatiques dans cet ordre de choses. C'est plutôt une pratique.
Vous avez dit que la Bible a ses promesses. Et donc, est-ce qu'on reçoit, si c'est une chose qui va dans le sens de Dieu, ou alors on reçoit mais complètement autre chose ou...
Alors, il a dit « demandez et vous recevrez », il n'a pas dit « demanderez et vous recevrez ce que vous avez demandé ». Il est subtil, Jésus, hein. Alors déjà, si possible, il faut demander quelque chose qui est pour notre bien ou le bien des autres. Mais c'est évident que si on demande la guérison de quelqu'un, c'est bien de demander la guérison de quelqu'un. Et c'est pas forcément ce qui arrive, hélas. Du coup, c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce que vous recevrez, mais qu'est-ce que je recevrai? Je ne sais pas vraiment exactement ce que je recevrai. Je sais que je recevrai quelque chose, mais qu'est-ce que je recevrai? Peut-être la guérison, mais peut-être pas. Mais non, c'est une question redoutable, parce que ça, c'est aussi la liberté de Dieu. Sœur Bernadette qui est là, elle disait, mais je ne comprends pas pourquoi moi, il m'a guéri. Il aurait pu guérir un jeune à ma place. Moi, je suis déjà vieille, je suis amortie. Et non, il a guéri. Alors, mais ça, c'est le secret de Dieu. Nous, on ne sait pas, on n'est pas à la place de Dieu. C'est là aussi, entre les promesses, on voit le décalage. Nous, on a notre raisonnement humain qui a toute sa valeur, mais Dieu ne raisonne pas comme nous. Ce n'est pas un disciple de Descartes. Donc, on est un peu dérouté. Oui, c'est après, soit sur la terre, soit même au ciel. Il y a des choses, c'est qu'au ciel qu'on aura le. C'est comme la tapisserie. Nous, on voit tout le côté avec les nœuds et tout ça sur la terre. Mais la beauté de la tapisserie, on la verra seulement quand on sera arrivé au ciel. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ça fait des nœuds, c'est pas très beau le côté avec les nœuds, mais. on ne comprend pas forcément tout, mais souvent c'est après coup, pour beaucoup de choses, c'est après coup, sur terre ou au ciel, qu'on comprendra, tiens, pourquoi. Oui. Nous, on n'a que deux vies, une sur la terre, enfin, la même vie qui se prolonge, qui s'épanouit au ciel.
Alors,
enfin,
on ne
va pas faire n'importe quoi pour autant. Oui. Alors, déjà vous êtes sauvés, hein, c'est une bonne disciple de saint Paul. Mais c'est en espérance en même temps, parce que, voilà, tant qu'on n'est pas arrivé au port, on peut encore se perdre, hélas. Alors, on a un petit peu perdu le sens du baptême des petits-enfants. Le sens du baptême des petits-enfants, c'était de dire, mais c'est vraiment Jésus qui nous sauve. Et ça manifeste que l'initiative est de Dieu, c'est lui qui nous sauve, c'est pas par nos efforts, etc., qu'on sauve. Donc ça, c'est important. Déjà, nous sommes sauvés. Après, Dieu veut sauver tous les hommes, mais après, Dieu nous laisse libres aussi. Si on ne veut pas rentrer au ciel, il ne nous y fait pas rentrer de force, pour dire les choses. D'une autre manière, le péché contre l'Esprit Saint dont il est question, c'est justement ne pas vouloir du pardon de Dieu. Ça suppose de ne pas vouloir se reconnaître pécheur. Et si on ne veut pas reconnaître son péché, ben Dieu ne peut pas nous le pardonner. Dieu ne nous pardonne notre péché que dans la mesure où on lui présente. Mais si on ne veut pas... Non, j'ai raison, j'ai bien fait de faire ça, ben... Dieu ne peut pas nous... C'est ça le... Oh ben bien sûr. De toute façon, ils rencontreront... Oui, Dieu fera selon s'ils ont suivi leur conscience. Malgré tout, il y a une présence de Dieu en chacun au niveau de sa conscience. Si la personne a fait le bien, bien sûr que... Et qu'elle, on voit, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont une qualité humaine. Et visiblement, ils auront peut-être moins de mal que certains chrétiens à entrer au ciel. Hein, donc, mais Dieu veut sauver tous les hommes. Il fait le maximum pour sauver. Après, ceux qui ne seront pas sauvés, c'est vraiment ceux qui veulent. Positivement, non, je ne veux pas de ta miséricorde. Mais sinon, tous les autres seront sauvés. Parce que Dieu veut sauver au maximum. Mais du coup, l'intérêt aussi de... Parce que certains disent, ben, à ce moment-là, chacun suit ce qu'il veut, ça, c'est plus la peine d'évangéliser et tout ça. Mais la différence, une image, c'est entre se promener sans lumière dans les ténèbres et avoir une petite lumière, c'est quand même... plus confortable d'avoir une petite lumière. Alors d'avoir la lumière de la foi pour traverser la vie, c'est quand même plus confortable que de ne pas avoir cette perspective et de la vie éternelle. Donc c'est pour ça que c'est important d'évangéliser dès maintenant et pas attendre. Voilà. Pas se dire, oh, le bon Dieu, de toute façon, il se débrouillera avec eux. À ce moment-là, on reste tous assis et puis on ne fait rien. Vous voulez demander autre chose? Ah ben, il y a une dame qui était désespérée parce que son mari s'était jeté du pont. Le curé d'Ars lui a dit, mais il a eu le temps de se convertir entre le pont et l'eau. Hein. Donc, ça, c'est le mystère de Dieu avec chacun. C'est pour ça que souvent on dit que c'est important de prier pour les personnes qui sont à l'agonie, parce que c'est un moment décisif où ils se laissent...
Voilà, et je pense qu'on ne devrait pas changer un peu la façon de prier. Parce qu'on est là à demander des choses terrestres finalement. Et est-ce qu'on ne devrait pas demander la confiance en Dieu, Dieu et que sa volonté soit faite. Et que de cette façon-là, si on demande la conversion de quelqu'un, je pense que Dieu ne peut pas le refuser, et pas maintenant, mais on ne peut même pas. Donc, je crois que cette prière-là, par exemple, elle est vraiment exaucée dans la mesure où on entend quelque chose de l'important.
Alors, en même temps, Jésus a donné des signes messianiques. On a besoin de signes concrets d'une prière qui est exaucée. Quelquefois, il y a des personnes très simples qui demandent le beau temps. On se dit, bon, voilà, il y a peut-être des choses plus importantes. Et je pense que c'était une personne handicapée. Dans la prière, je ne sais pas... Elle avait demandé une voiture rouge pour ses parents. C'était dans une communauté charismatique. Et qu'est-ce qui arrive le lendemain? Une voiture rouge. Alors, on dit, bon, c'est un peu du caprice, quoi. Déjà, d'avoir une voiture, c'est déjà pas mal, mais non. Et du coup, quelque part, on a... Alors, l'essentiel, c'est certainement cette relation de confiance avec Dieu, mais en même temps... Et Dieu aime nous montrer dans des détails concrets qu'il nous a entendus. Et Jésus a donné des signes messianiques concrets. Il pourrait dire, bon, non, c'est même pas la peine que je vous guérisse. De toute façon, vous irez au ciel après. Bon, c'est un peu dur maintenant, mais après... Non, il a aussi donné des signes. Alors, il y en a qui sont guéris, il y en a qui vont à l'autre qui sont guéris, d'autres qui ne sont pas. Après, c'est un peu mystérieux, mais... Mais n'empêche que le fait que quelques-uns soient guéris, ça incite beaucoup d'autres à aller à Lourdes. Mais on a besoin de signes. Et d'autres qui peut-être ne sont pas guéris physiquement, mais où il se passe quelque chose. Alors Dieu aime bien nous donner des signes. Dieu aime bien nous donner des signes, je crois. Et il ne faut pas hésiter à... Oui, oui. Et puis les autres autour qui avaient entendu la prière se sont dit, bon, je vais peut-être apprendre à prier comme ça. Mais pour eux, ça n'a pas marché. Oui, oui. Oui, c'est vrai aussi que... On pourrait dire aussi que dans notre vie chrétienne, quelquefois, au début de notre vie chrétienne, on a plus de signes, etc., comme un peu la première partie de l'Évangile. Et après, quelquefois, dans la deuxième partie, il y a des parties un peu arides, comme Mère Teresa, qui a été... Mais elle n'était pas moins proche de Dieu pour autant. Mais du coup, aussi des périodes de purification dans notre vie chrétienne et tout ça pour rectifier un peu nos désirs ou pour affiner nos désirs aussi.